Le congrès de l'UNIS 2024, les 10 et 11 octobre 2024 à Rennes, en partenariat avec Procivis, Axéo et Drieux-Combaluzier sur Radio Immo.
Eh bien, bonjour les amis, on se retrouve, il est 10h38, on est toujours en direct, seconde journée de l'édition 2024 de l'UNIS, le congrès où se réunissent les professionnels de l'immobilier dans l'ensemble des métiers. Et c'est bien de ça dont on va parler, puisque une conférence s'est déroulée sur la thématique des mutations contemporaines du métier de syndic de copropriété. Inutile de dire que, à mon avis, il y a beaucoup à dire autour de cela. Pour justement en parler, nous avons réuni à la fois des syndics de copropriété, aussi qui ont diligenté cette étude. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Nadine Serrant. Bonjour Nadine.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Directrice du service copropriété chez Keredes Immobilier, ici à Rennes.
C'est cela.
Très jolie comme ville, Rennes.
Très jolie.
Nathalie Appéré, qu'on a eu le plaisir de rencontrer, a fait un travail remarquable sur la ville, je trouve.
Oui, elle est bien rénovée.
Oui, elle est très bien rénovée. Et j'ai trouvé que les travaux sur la gare, par exemple, ont été absolument remarquables. C'est intéressant, d'ailleurs, quand on arrive dans la gare, dans une nouvelle ville, on donne tout de suite le ton.
Oui.
Alors, quand on sort, on se dit si la ville, elle est belle ou pas. C'est très intéressant comme... Donc ça ferait peut-être l'objet d'une étude qu'on pourrait faire. Voilà, un grand monsieur de l'immobilier également, de la copropriété, connu, reconnu parmi les professionnels, c'est Alexis De Coster. Comment ça va Alexis ?
Ça va, merci, bonjour.
Pour le Crédit Agricole Immobilier.
Oh oui, c'est pour Habitat.
Comment ça va ?
Très très bien, on est ravis d'être au congrès de l'UNIS, un beau congrès,
oui.
Un beau congrès dans une très jolie ville. On apprend plein de choses, on voit beaucoup de choses, on échange beaucoup. Donc oui, très content d'être...
Et une présent. Belle audience, hein, puisque ouais. Effectivement, un congrès qui a fait le plein avec, on peut le dire, notre nouvelle ministre de plein exercice, Valérie Tard, que j'ai eu le plaisir de recevoir ici sur ce plateau hier matin, ainsi que des élus locaux et élus de la nation, puisque Naïg Le Meur aussi est intervenu hier. Pour justement diligenter ces études, il fallait effectivement avoir cette idée. Alors on va en parler, puisque mutation contemporaine, on va essayer de décrypter de ce dont on parle avec vous, Anne-Claire Davis.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien. Je suis contente de venir vous présenter ce travail.
Vous êtes chargée d'études à l'Institut Paris Région. On va faire un peu le pitch, si vous voulez bien, pour commencer. Qu'est-ce qui a présidé à l'idée de cette étude sur les mutations contemporaines du syndic de copropriété, quand on sait que, par ailleurs, quand on veut observer la sociologie de notre société, il suffit simplement d'aller dans une copropriété, par exemple.
Alors, l'origine de ce projet, c'est un appel à projet de recherche du PUCA, qui s'appelle « Régénérer les copropriétés ». Et c'est à l'initiative de l'Institut. Nous, on travaille beaucoup sur les copropriétés du point de vue des politiques publiques, donc rénovation énergétique, copropriété dégradée. Et on s'est dit qu'il y avait un acteur un peu aveugle de ces politiques qui était le syndic, sur lesquels on aimerait se documenter et mieux les connaître. Et donc on a proposé cette recherche au PUCA avec 3 sociologues indépendants qui sont Claire Juillard, Gaëtan Brispierre et Sylvaine Le Garec, et puis ma collègue Francisca Barnizen à l'Institut. Et le PUCA, qui a ce programme de recherche financé par l'ANA notamment, a souhaité qu'on mène cette étude. Et elle se compose de 2 rapports, un rapport national et un rapport francilien.
Alors, quels sont les grands traits de cette étude ? Et j'aimerais quand même vous poser la question, pourquoi vous avez ajouté le mot contemporain aux mutations ?
Contemporain, parce que ce qu'on a observé, c'est ce qui fait bouger aujourd'hui le métier, même si dans le rapport national, on a aussi pris le temps de faire l'histoire de la profession. On a fait un peu sa socio-histoire, et je vous invite à regarder, parce qu'il paraît que même des syndics aguerris ont appris des choses dans ce travail de remonter l'histoire, puisque finalement, la carte G, elle est assez récente, et donc toute l'évolution du métier depuis le mandataire, des grands propriétaires immobiliers jusqu'à aujourd'hui, et on s'est penché sur les mutations aujourd'hui, les problèmes d'image, de digitalisation, de recrutement. C'est ce qui nous a le plus intéressé, puisque c'est ce qu'on veut voir, c'est comment en faire un relais pour des politiques publiques locales, donc c'est aujourd'hui qui nous intéresse.
Alors, Alexis, vous avez certainement, bien évidemment, participé, mais aussi bien étudié les mutations contemporaines. Vous êtes un spécialiste de la copropriété. Vous avez travaillé aussi, surtout, dans des grands groupes. Où vous avez d'ailleurs, ce qui est intéressant dans votre parcours, Alexis, c'est que vous avez, à l'échelle IRIS du syndic le plus petit et à l'échelle d'une grande entreprise qui, aujourd'hui, a des centaines de milliers de lots, justement, en syndic. Ce qu'on appelle des lots, c'est des appartements qui sont dans les copropriétés.
Oui, voilà, c'est notre maître étalon, c'est le lot copropriété, voilà. Hein, donc c'est l'appartement.
C'est exactement, là, c'est important parce que oui. Quand on dit j'ai 1000 lots, c'est pas 1000 immeubles, c'est dans les... Voilà. Donc il y a le nombre d'immeubles et il y a le nombre de lots. Bien évidemment, comment vous décryptez déjà pour démarrer, et je vous poserai également la même question à vous Nadine, justement les grands traits, et quelle est la sensation que vous avez eue lorsque vous avez appris des choses aussi également, et qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, en tant que professionnel du syndic?
Déjà, c'est un exercice de style... extraordinaire, c'est vrai que ça sort de l'ordinaire, parce que je crois que c'est inédit. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ce type de rapport, ça n'a jamais été créé. Même moi qui aime bien regarder un peu ce qui se passe ailleurs, au-delà des frontières, ça existe nulle part ailleurs, ce sujet-là. Donc en fait, on apprend plein de choses. Alors on s'identifie aussi à beaucoup de choses, c'est le principe aussi d'une étude sociologique. Donc ça retrace véritablement toute l'histoire de notre profession. C'est-à-dire que sur... la partie 19e, on peut remonter très 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 loin dans l'histoire, hein. mais sur allez, grosso modo ces 70 dernières années, ça retrace véritablement à toute l'évolution de ce métier-là, de cet acteur qu'est le syndic de copropriété, et sur cette vision contemporaine, tout le constat aujourd'hui du métier, et puis les perspectives d'avenir sur ce que peut devenir demain un syndic de copropriété. Avec toute cette diversité, administrateur de biens ou syndic de copropriété, alors le petit syndic, j'aime pas ce terme, mais indépendant, le syndic indépendant jusqu'au groupe.
On peut dire aussi syndic de proximité ou du quartier.
Oui.
Qu'on aimait bien.
Je suis pas fan. Oui.
J'ai eu l'âge de connaître ça.
Oui.
Voilà.
Oui. Alors la notion de syndic de proximité, je suis pas très très fan. Je sais pas si ce que veut dire la proximité. Je sais pas si la proximité physique, géographique.
Je vous parlais du... Ouais. Moi, j'ai vécu dans un quartier, on avait un syndic, un vieux monsieur qui avait plus d'âge, qui était connu comme le loup blanc, c'est incroyable, et qui gérait tous les immeubles du quartier, et qui avait, je ne sais pas si ça ressort dans l'étude, mais qui avait une espèce de capacité à être une espèce de médiateur social de l'ensemble du quartier, parce que c'était le petit monsieur le plus ancien qui catalysait toutes les demandes, etc. Je sais pas, vous savez les nouvelles de Guy de Maupassant, vous savez quand il décrit la vie quotidienne ou la vie de la moyenne bourgeoisie, c'était tout à fait ça, et avec des moments incroyables.
Mais ça pour moi c'est plutôt un invariant du métier, puisque ce qu'on a observé c'est que ce soit des syndics, des agences de grands groupes
c'est
ou des cabinets
cas.
Indépendants, ça reste des acteurs de proximité.
Ça reste toujours le
Ils
cas.
Ils peuvent avoir une structuration qui est nationale, mais l'agence elle-même.
Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que l'agence, vous avez dit l'agence, à l'heure où actuellement on finalement disparaît le côté physique de la présence immobilière, il y a quelque chose qui est intéressant justement quand vous parlez de l'agence. Nadine, est-ce que même question, comment vous avez perçu les éléments de cette étude, parce que ça vous a appris des choses, vous avez une longue expérience également dans la copropriété, qu'est-ce que vous en avez pensé?
En effet, on apprend des choses ou on repose des choses, c'est-à-dire qu'on est en train de retracer les choses que l'on sait ou que l'on a su, et ça nous remet un petit peu comme l'église au milieu du village. Et cette étude-là, elle nous conforte quelque part, parce que on est d'accord, forcément, on se retrouve dans les observations, dans certaines présentations, dans les difficultés qu'on peut rencontrer. Et en même temps, ça permet comme ça de se dire, le constat il est là, l'état il est là, la situation elle est là, et qu'est-ce qu'on veut en faire demain? Donc ça permet d'avoir un bel arrêt sur image qui va nous permettre justement de rebondir et de pouvoir commencer à se dire, c'est quoi demain alors?
Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, qui vous ont étonné, qui vous ont sidéré?
Non, pas tant que ça. Je pense qu'on le vit bien. Disons qu'on a mis des mots sur des ressentis plutôt.
D'accord. Alors justement, on va parler du processus académique dans lequel vous avez, processus scientifique dans lequel vous avez réalisé, la méthodologie, comment vous y êtes pris?
Alors on a donc commencé par une étude d'envergure nationale où on est allé rencontrer tous les représentants de la profession nationaux, les têtes de réseau, ceux qui sont aux prises avec la formation des jeunes professionnels, leurs partenaires principaux, les associations de consommateurs aussi sur la vision.
Y compris les écoles qui forment des...
On a rencontré des responsables de formation sur la question, est-ce qu'on a ce qu'il faut dans les formations professionnelles pour amener au métier de syndic. Et donc, dans cette première phase, on a surtout interrogé les syndics sur la manière dont ils se voyaient, sur le rôle qu'ils imaginaient, mais à une échelle nationale. Donc, les échanges avec les trois ministères de tutelle, la manière de la segmentation économique. Donc, on a distingué trois grandes familles qui sont le cabinet indépendant, qui reste largement dominant sur le marché, en tout cas dans ce qu'on a observé en Île-de-France, les groupes. Alors on a pris une définition, c'est pas casser la tête si je peux me permettre, on a pris la liste des membres de Pluriance qui se reconnaissent comme des gros acteurs immobiliers d'une certaine taille,
oui.
Et on a considéré que c'était une catégorie. Et ensuite ce qu'on a appelé les néo-entrants, qui sont de deux types, qui sont ceux qui surfent sur des nouvelles solutions numériques, soit qu'ils soient issus du métier et qu'ils aient développé cette solution numérique, soit qu'ils soient ce qu'on appelle des pure players de la prop tech qui essayent de percer dans ce milieu immobilier. Et qui sont encore assez marginaux en termes de parc de taille géré, mais qui, au moment où on faisait notre enquête, qui était au moment de publicité assez polémique de la part de Matera ou Bellman, qui venait justement travailler sur la mauvaise image du syndic,
bien sûr,
qui représentait une interpellation forte pour la profession.
Mmh. Notamment pour les sadomasochistes très branchés sur le ménage urbain.
Et le jardin.
Parce que ça fait l'objet, bien évidemment, je peux pas résister. Moi, je suis journaliste. Donc forcément, on peut pas résister à un coup de buzz. Quand j'ai vu ça, j'ai absolument halluciné de l'audace. Vous vous rappelez de ça? De l'audace, incroyable. Le mec, il est quand même...
Dans le métro, oui.
Pour vous rappeler, les amis, le mec, il est en latex. Donc, un truc de ouf, quand même.
Ouais.
Ah, tu l'as vu dans le métro. Alors, on attaque, c'est en train de passer l'aspirateur. Et le mec, il tape sur les syndics. Bon, je vous rassure, Bellman a déposé le bilan.
Oui, voilà. Donc cette première étape nationale, c'était ça.
Donc, ils ont déposé. Matera a été condamné. Et donc, bon, pour les néo-entrants ou les néo-syndics, effectivement, la pilule est un peu difficile à intégrer. Je suis très surpris de la première notion. Les indépendants sont les plus importants.
Ah, en termes de part des copropriétés en Île-de-France, c'est 78% des copropriétés dont on connaît le gestionnaire avec le registre national des copropriétés
qui
sont connues et qui gèrent des... Sauf à imaginer que les groupes remplissent moins leurs obligations vis-à-vis du RNC, je pense qu'on peut dire que c'est fiable.
J'étais Alexis.
Oui, non, mais c'est vrai que sur le...
Moi, ça me surprend vachement.
J'étais
persuadé que les groupes avaient le volume le plus important.
Ouais, typiquement, Square Habitat, on est très peu présent en Île-de-France. C'est le poids de l'histoire.
Oui, mais vous avez un ancrage...
un ancrage territorial.
Vous avez très fort ancrage territorial. Mais non, mais je veux dire, par exemple, je vais prendre le cas de Foncia, par exemple, ou même le cas de grands groupes qui atomisent aussi un peu le marché, comme le Citia, par exemple. Je suis très étonné. Il y a encore une majorité...
Alors, je ne peux vous donner que les chiffres du marché francilien.
Oui, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les professionnels. C'est une bonne nouvelle parce que ça prouve que le marché est encore avec une pluri-offre. Je pense que c'est bien qu'on ait toujours des indépendants, Nadine.
Mais on le constate d'ailleurs. Hein, il y a toujours des indépendants, même des créations d'entreprises, mais à une échelle très très petite, justement pour le syndic de proximité qui à un moment va être dans le quartier et va gérer les immeubles de quartier. Alors, ça existe toujours.
On a ces trois classes, effectivement. Donc intéressant. Je vais les reprendre d'ailleurs pendant mon émission sur Sud Radio. Je trouve extrêmement intéressant. Donc, un, les indépendants, deux, les groupes et les néo-entrants, qui sont finalement un peu les disrupteurs ou les tentatives de disruption du marché. Bah, écoutez, chacun sa chance. Alors, quel est le deuxième enseignement que l'on peut avoir, justement, sur la fonction réelle? Et je vais vous challenger sur deux, trois questions qui reviennent dans le grand public. Souvent dans le grand public. Pas plus tard que la semaine dernière, on a posé les questions sur notamment les copropriétés en difficulté, les copropriétés dégradées. Est-ce que le syndic, dans les mutations contemporaines, n'est-il pas appelé à devenir de plus en plus le médiateur social de cette petite sociologie qu'est la copropriété?
Nous, c'était l'hypothèse de départ qu'on faisait, de dire que c'était un acteur central qui n'était peut-être pas assez connu, notamment des pouvoirs publics. Et donc ce qu'on a observé, c'est un paradoxe, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que à la fois les syndics se reconnaissent dans cette proximité comme des acteurs du territoire, et en même temps ils n'ont pas des relations très ténues avec les collectivités locales. Et là on voit en Île-de-France cette chose-là un peu évoluer avec des tentatives de la part des villes. En fait, ce qu'on a constaté, c'est quand une ville est confrontée à une copropriété dégradée, elle découvre un peu le sujet de la copropriété, plutôt par son côté qui dysfonctionne.
Négatif. Et
dans ce cadre-là, elle commence à avoir des relations avec les syndics, etc. Puis ensuite, elle se dit, bon, une fois que ce cas-là est traité, elle se dit, mais est-ce que j'en ai d'autres? qu'est-ce que c'est mon parc privé en réalité, à quoi il ressemble. Et du coup, elle commence, il y a pas mal de villes en Île-de-France qui commencent à mettre en place des clubs de la copropriété, des forums de la copropriété. Et donc, ce rapprochement vis-à-vis des syndics se fait dans certains endroits où on prend conscience que c'est un relais possible des politiques. Mais il y a un problème, pour l'instant, de manque de connaissances entre eux, de la part des syndics qui ne voient pas forcément les collectivités comme une ressource, et de la part des collectivités qui, peut-être, elles-mêmes sont victimes de la mauvaise image de cette profession, surtout quand il y a eu parfois des mauvais professionnels, il y en a dans les copro dont elles ont dû s'occuper. Et donc, c'est tout ce dialogue, c'est ce qui nous a vraiment intéressé, c'est quelles pourraient être les conditions de renouvellement du dialogue de cette profession avec les politiques publiques qui, on le voit, vont s'adresser de plus en plus au parc privé. On voit que la copropriété est devenue un objet explicite de politique publique avec des intentions à son égard, des aides publiques qui pourraient lui être destinées et dans lesquelles le syndic a un rôle à jouer avec ce débat sur faut-il des syndics particuliers.
Notamment, alors c'est intéressant ce que vous dites parce que les syndics ont souhaité pour la plupart être désignés comme tiers de confiance dans le cadre de l'accompagnement des travaux de rénovation énergétique. On appelle mon accompagnateur Rénov. Une qualification en fait qui donne aux professionnels la pouvoir finalement d'être à la fois soit tiers collecteur mais aussi surtout tiers de confiance dans les travaux. Cette image des syndics qui est négative, et ensuite on fera un petit tour de table, est-ce qu'elle dure?
Oui.
Est-ce qu'elle est toujours persistante? Parce que moi ça fait un peu, voilà, ça va faire 40 ans quasiment que je suis dans ce métier. C'était à l'époque, c'était carrément une horreur, hein. Je veux dire, moi j'avais un papa qui disait que syndic égale escroc. Donc quand je rentre dans l'immobilier, il me dit bon bah c'est bien, tu vas devenir un voleur. Donc il y avait vraiment une caricature à l'époque. C'est toujours aussi persistant.
Tout à fait, ouais. C'est un des premiers enjeux qu'on a pointé, c'est il persiste une mauvaise image de la profession.
Et vous l'identifiez. Vous en tant que chercheur, comment est-ce que vous avez réussi à trouver les fonds de cette analyse? Qu'est-ce qui fait que, à votre avis, quels sont les retours que vous avez qui fait que on n'arrive pas, souvent d'ailleurs on en parle avec Alexis dans les émissions, à retravailler l'image du syndic, une image plus moderne, plus engageante, plus...
Alors nous ce qu'on a vu c'est qu'il y a encore la trace de scandales passés qui n'est pourtant, pour être ancien, n'en sont pas effacés. Ah oui, il y a la question de la régulation et de l'autocontrôle de la profession qui est restée au milieu du guet. La question d'une commission de discipline ou de la possibilité d'écarter quelques, on va dire, mauvaises brebis qui pénalise l'ensemble de la profession et qui n'est pas allé au bout de ce qui pouvait être envisagé, et avec, j'ai l'impression, des débats au sein de la profession qui ne sont pas encore aboutis sur qu'est-ce qu'on doit se donner comme cadre de régulation interne, avec un jeu un peu ambigu des pouvoirs publics, effectivement, avec un côté désignation du syndic parfois comme étant le problème, et en même temps en faisant des lois qui le placent en situation de relais. Donc il y a une sorte de positionnement un peu ambigu. Et puis, on revient toujours sur la question de la méconnaissance du métier par les copropriétaires, par les collectivités publiques qui peut-être méconnaissent l'ampleur et la multiplicité des tâches du syndic, avec des enjeux, du coup, sur... Et puis, tous les débats sur le modèle économique. Là aussi, il y a eu des traces du passé.
Bien sûr.
Sur des fonctionnements. Parce que comme on ne trouve pas tout à fait la rentabilité de ce métier, il y a eu, des, on va dire, des adaptations, des façons de fonctionner ou de financer des tâches qui n'étaient pas les meilleurs, les plus optimales, et qui ont laissé aussi des traces. Et il y a cette question de voilà, qu'est-ce qu'on finance, comment on finance cette action, et qu'est-ce qu'on finance et qu'est-ce qu'on rend transparent. Ça, du point de vue des associations de locataires, c'est vraiment le sujet.
Alors,
la question du modèle
qui ont laissé des traces, vous avez raison. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la norme s'est imposée, avec la révision, notamment sur le contrat de syndic, on va en parler, qui finalement, quelque part, a renié la liberté qu'avait le syndic à l'époque, notamment sur les fonds mandants, par exemple, sur des contrôles d'obligation d'ouvrir un compte par copropriété, vous me rectifiez si je dis une erreur, qui a permis d'aller vers plus de réglementation, donc plus de contrôle. Alexis.
Oui, alors le contrat de syndic, c'est vrai qu'au début...
Il y a un lien entre la volonté de contrôler la profession pour lutter contre les malveillances ou les malversations, par justement l'imposition d'une norme qui vous oblige à upgrader votre niveau de qualité.
Oui, alors c'est vrai que avec du recul, le contrat de syndic, alors on pourrait le modifier, le simplifier, etc. Quand on le regarde tel qu'il est aujourd'hui, même si on était un petit peu sur la réserve quand c'est sorti, parce qu'effectivement, pourquoi une seule profession, enfin, ordonnance de 86, moi j'ai appris à l'école que c'était la liberté de marché et qu'on faisait un petit peu près, c'était l'offre et la demande, et qu'on pouvait se débrouiller comme ça et que ça fonctionnait bien.
Il y a eu un peu d'abus quand même.
Non, il y a eu des abus, mais il y a eu aussi beaucoup de réglementation interne aussi au sein de la profession. Alors moi, j'ai connu pour le coup que des groupes. Alors, peut-être sur lesquels il n'y a pas eu suffisamment de communication, mais il y a eu quand même des choses qui étaient normées pour toujours évidemment être plus que dans le cadre. Après, c'est des sujets d'interprétation sur savoir ce qui était facturable ou pas facturable. Mais après, c'était des choix qui étaient de toute façon avalisés en Assemblée Générale. Donc aujourd'hui, le contrat de syndic, si déjà on exploitait toutes les lignes, même si on pourrait simplifier, parce que à mon sens, il y a plein de lignes qui ne servent pas à grand-chose, très clairement. Mais si on pouvait déjà ne serait-ce que bien l'appliquer...
Alexis, un exemple. Ouais. Qu'est-ce qui ne sert pas à grand-chose? Donnez-moi
une prestation. Je crois qu'on peut facturer une lettre recommandée qu'on envoie à un tiers. On s'en fiche. Ce n'est pas là-dessus qu'on va faire notre chiffre d'affaires. Je préférerais qu'on valorise plus les honoraires de suivi de travaux, les honoraires de suivi de sinistre.
Ah, je suis complètement d'accord.
Les procédures hors recommandement que... Facturer, celle-ci ne sert à rien. On a une autre, c'est on peut facturer la présence au sein d'une ASL, mais en création. Alors, on crée une ASL à peu près une fois tous les 25 ans, en vraie création. Donc c'est pareil, c'est des petites choses qui ne servent pas à grand-chose, à mon sens.
D'accord.
Mais aujourd'hui, le contrat de syndic, le mérite, c'est qu'effectivement, ça aligne tout le monde sur la... Alors, je ne vais pas dire lisibilité, puisque en plus du contrat de syndic, on nous a mis une fiche d'information qui ne rend pas forcément extrêmement lisible. Mais au moins, bon, ça cadre, ça norme.
C'était l'idée. Hein.
Et oui, non, mais c'est pour le coup, c'est réussi.
Qui a été pris comme une contrainte.
Et puis, on sait tous.
Et cette contrainte, elle est liée, effectivement, c'est ce que vous précisiez, justement, de cette défiance du public à l'égard du syndic. Parce qu'on dit souvent que le syndic, je ne sais pas si vous avez interrogé les usagers, mais il ne sert qu'à faire de la reddition de charges. Ou autre, alors que le syndic, et c'est vrai que c'est frustrant quand on est une professionnelle de se dire, mon rôle ne se réduit pas uniquement à faire de l'appel de charge, Nadine.
Bah disons que le contrat de syndic tel qu'il est rédigé nous confère là-dedans aussi, hein,
oui.
De toute façon.
Mais dans votre mission au quotidien, vous avez cette perception-là? Non.
Ah bah si, on est un percepteur.
Oui,
de toute façon, c'est nous qui demandons l'argent. C'est bien là par le problème, c'est qu'il y a une confusion telle, y compris dans ce que sert le syndic. Le syndic, beaucoup de copropriétaires nous disent, avec tout ce que vous gagnez, vous êtes encore en train de nous augmenter, etc. On est en train de parler de leurs charges, on n'est pas en train de parler de nos honoraires.
Parce que quand
il y a une confusion
quand vous appelez les charges, ils ont l'impression que c'est vous.
Mais
en fait, c'est comme les droits de mutation.
Mais exactement.
Les frais de notaire qui sont à 8,5%, alors que les notaires, je ne sais pas si vous l'avez observé, ils touchent que 0,8%.
Mais c'est ça. C'est ça. Ouais. Il y a une confusion complète et on mélange le prestataire et donc nous, nos honoraires avec le reste des charges. Et ça, on n'arrive pas, on a beau l'expliquer en assemblée, on fait de la pédagogie dessus, ça reste dans l'inconscient collectif. Et donc, mon syndic est cher parce que j'ai des charges chères.
Anne-Claire, est-ce que les relations se sont améliorées avec les usagers, avec les syndics? Parce que deux choses, vous avez dit clairement que la perception négative du syndic durerait, elle est en train de durer, effectivement, les clichés ont la vie dure, mais est-ce que à la lumière des outils, de la formation, de la configuration intellectuelle aussi pratiquée et de l'académie, puisque les formations syndiques se sont beaucoup développées dans les 20 dernières années à partir de 1996. D'ailleurs, j'ai été l'un des co-rédacteurs du BTS Profession Immobilière sur la partie syndic, ça tu le sais, et j'ai travaillé sur un troisième cycle de formation. Il n'existait rien. Avant 1995, il n'y a rien comme formation, à part les SPI qui, à l'époque, avaient une école qui n'était même pas d'ailleurs reconnue sur certains types de diplômes. Est-ce que ça a amélioré les choses? Et j'ai pas l'impression.
Non, moi, j'ai pas une réponse unique à cette question. Ouais. Du point de vue des syndics, on nous a quand même beaucoup dit que le niveau de conflictualité dans les copropriétés avait augmenté, que la profession était difficile, qu'ils géraient beaucoup de situations conflictuelles, que les copropriétaires pouvaient faire preuve d'impatience vis-à-vis d'eux. Donc, nous a pas raconté qu'une histoire de relations apaisées. En même temps, effectivement, avec la digitalisation, avec un certain nombre de simplifications de tâches, il y a du temps libéré.
Le niveau de compétence a évolué parce que les diplômes aujourd'hui existent
les
prérequis de recrutement. Alexis et Nadine, vous me direz si je me trompe, les prérequis de base ont augmenté.
Mais il y a un problème de recrutement de toute façon. Donc ce qu'on a vu en Île-de-France, c'est que une grosse partie des professionnels des cabinets sont des parcours de reconversion. Même si la formation a augmenté, il n'y a pas assez de jeunes professionnels qui se dirigent vers cette profession. Donc,
est-ce que ça veut dire
qu'il y a quand même encore un peu
de... Il y a un désaveu de la jeunesse vis-à-vis de cette profession, une espèce de défiance?
Elle est difficile, elle demande une charge de travail importante, des horaires élargis. Donc ça, les jeunes professionnels, on le voit dans d'autres secteurs, n'ont plus le même rapport au travail. Ils ne sont pas forcément prêts à passer 200 jours par an dans des AG du soir. C'est quand même très engageant comme profession du point de vue de la charge de travail. Donc il y a des choses qui sont plus faciles. L'AG dématérialisé, l'AG qu'on remonte un peu dans la journée où on fait des AG.
L'AG qu'on peut faire en journée, bien sûr.
Il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup d'évolutions qui vont pour faciliter le recrutement. La rénovation énergétique qui propose des postes avec des couleurs un peu de spécialisation qui mettent en valeur de nouvelles compétences.
Et
il y a
plein de choses positives, mais pour l'instant, ça reste dur. Est-ce que la rémunération a une incidence, Anne-Claire?
Alors on nous dit que c'est plutôt une profession qui est plutôt bien rémunérée, mais ça ne peut pas forcément compenser la charge de travail ou les contraintes de travail que ça pose, notamment devant une profession qui se féminise. Et donc la question de la féminisation de la profession, oui, c'est ce qu'on nous a dit.
Elle ne l'était pas.
Elle
était moins. Non, mais c'est intéressant.
Et que du coup, soit on refait la révolution sur la façon de partager les tâches dans les familles, mais en tout cas, ça pose une contrainte en plus sur la possibilité d'accepter des horaires compliqués.
Réaction, Nadine ?
C'est aussi une profession où il y a pas mal de charge mentale. En fait, c'est une profession d'humain, malgré tout, et c'est une profession où on y met de l'émotion. Et à partir de là, la principale difficulté pour les collaborateurs, c'est de pouvoir mettre cette distance et de rester à distance. Parce qu'après tout, ils gèrent des immeubles ou ils gèrent des logements, des biens, etc. Et c'est aussi, on a le pendant chez soi. On vit aussi quelque part, on a aussi la relation à l'immobilier à titre individuel. Donc c'est pas toujours facile de mettre justement le costume du syndic et de mettre la distance avec les gens, avec des fois cette difficulté humaine, etc. Et cette charge mentale peut être un frein. Enfin, on l'observe sur des nouveaux collaborateurs.
Un frein, c'est-à-dire quoi ? Elle est source de stress ?
Elle est source de stress qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer. Et là, c'est là où on doit les accompagner. Mais il faut du temps. Enfin, je dirais là, c'est l'expérience de la vie qui permet aussi d'apprendre à...
Depuis combien de temps vous êtes syndic ?
Kérédès ou moi ?
Vous.
20 ans.
20 ans. Vous avez quelle formation ?
Juridique.
Juridique. C'est un choix, la copropriété, pour vous, au départ ?
Au départ, j'étais pas forcément dans la copropriété. J'y suis venue par choix. J'y suis venue par choix, par l'intérêt, justement, de cet échange avec les gens, avec la vraie vie, en fait.
Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Qu'est-ce que vous aimez le plus ? Qu'est-ce qui vous sort tous les jours en motivation ? Pour votre métier, pour celui de syndic.
De trouver les solutions à tout, en fait. Enfin, d'être celui qui est capable à un moment d'être l'homme orchestre, justement, qui est capable d'aller chercher les solutions.
Vous aimez bien être le géo trouve tout, finalement.
Ouais, c'est ça,
voilà.
C'est ça.
Dès qu'il y a un problème, c'est bon pour vous, quoi.
C'est ça. Après, il faut canaliser le problème.
Faut pas que ce soit trop calme, mais, quand même. Bon.
Voilà. Mais non, c'est enthousiasmant, intellectuellement parlant, humainement parlant. C'est plein de rencontres.
Humainement, et surtout, bien sûr.
Ouais. On apprend tout le temps.
Alexis, justement. Alors, c'est vrai, la cote au niveau du public, elle n'est pas top en termes d'attractivité de métier. C'est
oui.
vrai.
Ben ça, c'est vrai. Oui, de toute façon.
Les métiers comptables, les métiers de gestionnaire de copro, c'est une galère totale. Quand on compare, par exemple, avec la transaction, notamment. Et il y a ce mythe, effectivement, du fait qu'il y a une charge effectivement mentale, une charge de travail, et pas forcément toujours bien payée. Et en fait, ce n'est pas réellement le cas, en fait.
Non, en fait, ça augmente. Enfin, ces dernières années, en fait, les salaires ont augmenté. L'offre et la demande, hein, de manière c'est automatique. Donc, c'est une profession. On ne connaît pas le chômage. Alors, même si aujourd'hui on a un chômage qui est peu tendu,
mais pas de chômage.
Il n'y a pas de chômage.
Il y a une tension dans le métier.
Il y a une tension. Ouais. Donc, pour les gens qui cherchent des métiers, on est sûr de trouver un emploi à la fin. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on disait aux étudiants, puisqu'on parlait tout à l'heure de formation. Bon, à l'époque, c'est c'est les professionnels qui ont créé les propres écoles de formation à l'époque, mm-hmm. puisque dans l'enseignement général, il n'existait rien. Et on disait aux étudiants, puisque moi je formais les étudiants, vous êtes sûr qu'à la fin vous avez votre diplôme, vous avez un CDI à la fin. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant.
La rémunération d'un jeune gestionnaire de copropriété avec un bac plus 2 ou un bac plus 3, c'est combien ?
En moyenne, ça varie.
Donnez-moi des moyennes.
Moyenne large, on commence
ça en va deux.
Je sais pas, 30, à peu près 30, minimum 30-35 KE. Ça dépend.
Ah, quand même. Ça dépend de la région.
Non, mais ça dépend de la région, oui. Mais ça dépend de la région, en moyenne. J'ai Paris en
sous. Vous n'êtes pas milieu.
On n'est pas à Paris.
En province.
Non, mais en moyenne.
Ouais. Nadine en province.
C'est plus 28, oui, c'est à peu près 20, 28. Ouais. 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 On commence vraiment en 28, ouais. Et puis après, il n'y a pas de limite sur le. Il y a des limites.
Il y a une limite du chiffre d'affaires.
Chiffre d'affaires, mais.
Bon, c'est une rémunération correcte, hein, mais c'est pas non plus le.
Non.
Voilà, c'est
non.
Pas non plus.
Mais on
le,
sent que ça a quand même augmenté sur cette année. Alors c'est plus axé. Les augmentations sont toujours pareilles, c'est des moyennes. Donc il y a des écarts entre les villes, entre le. Paris est encore un peu spécifique sur le sujet.
Bien sûr.
Mais même entre les régions, il y a aussi beaucoup de distorsions sur le sujet.
Où est-ce qu'on peut se procurer le compte-rendu?
Il est en ligne sur le site de l'Institut Paris Région. Donc oui. Il y a le tome national qui est déjà en ligne depuis quelques mois. Et très prochainement, dans les prochains jours ou peut-être la semaine prochaine, il y aura le tome 2 francilien qui va être mis en ligne sur Super. Le site www.institutparisregion.fr.
Alors, www.institutparisregion.fr. Voilà, mon cher Jason, si tu peux bien mettre l'URL, je vous engage fortement, les amis, à consulter cette étude. On peut y avoir accès gratuitement?
On est une agence, on travaille pour le public, tout est mis à disposition.
Eh bien, on s'en fera l'écho, on se permettra d'ailleurs de vous réinviter, si vous voulez bien, sur
une
sur grand public, justement pour en parler un peu plus, puisque effectivement, ces métiers qui ont la vie dure, hein, qui ont un cliché parfois un peu négatif, bon, je me rends compte que ça dure un peu, malgré l'évolution quand même, à la fois académique, intellectuelle, de ces métiers. En tout cas, on a tous besoin des syndics, hein, c'est vrai, on a tous besoin des syndics. Et le syndic, c'est une petite démocratie extrêmement intéressante, et je trouve assez intelligent et assez intéressant d'observer la société à travers le prisme de la copropriété, même si à une époque, j'ai connu des assemblées de copropriété, je suis obligé de me déplacer avec un casque intégral. Parce que je peux vous dire que des fois, c'est un
on fait aussi des âges au champagne.
Bon, d'ailleurs, je voudrais citer aussi une pièce de théâtre qui s'appelle Les copropriétaires de Gérard Darrel, qui avait été un carton absolument incroyable, que d'ailleurs on va adapter avec des professionnels pour faire un gala de soutien. Et un livre qui avait été publié sur l'immobilier, bien évidemment, par les chercheurs du CNRS. Et aussi un film, est-ce que vous vous rappelez d'un film qui s'appelle
Mille millième
fantaisie immobilière, avec Vladimir Yordanov, un syndic dépressif, voilà, un plombier qui fait semblant de réparer pour pouvoir continuer à facturer la copropriété. C'est à se plier de rire, extraordinaire. Comme quoi, finalement, on peut aussi avoir un regard un peu acide sur le métier, mais en tout cas, il est aussi jubilatoire, vous l'avez dit tout à l'heure, puisque c'est d'abord et avant tout le creuset de ce qui se croise dans la fabrique de la ville entre les différentes relations humaines. Et je trouve ça extrêmement intéressant à observer. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Un grand merci à vous, Anne-Claire David. Vous êtes chargée d'études à l'Institut Paris Région. Merci,
merci
d'avoir pris le temps de venir sur Radio Mio. Vous avez vu, ça s'est bien passé. Voilà, il n'y avait pas de piège. Merci Alexis de Coster, les As de la Copro, avec Gilles de Frémont. Alors Gilles Frémont qui essaye d'œuvrer au quotidien pour changer l'image aussi des syndics. Et il a raison, parce qu'il est passionné. Et bien évidemment, on ne peut pas résister, ma chère Nadine, aux accents de la passion. Nadine Serrand, directrice Copro du service Copro chez Keredes Immobilier à Rennes. Voilà, dans notre bonne vieille ville de Rennes. On se retrouve dans quelques instants. On va faire des remises de prix.
Le congrès de l'UNIS 2024, les 10 et 11 octobre 2024 à Rennes, en partenariat avec Procivis, Axéo et Drieux Combaluzier sur Radio Immo.